croire que vous avez passé un moment bien doux avec votre Père des cieux, avec son Fils bien-aimé, devenu votre bien-aimé, et que vous avez éprouvé au plus profond de vous-même la réalité de la personne du Saint-Esprit qui vous habite. Et je veux croire que vos pensées auront pu donner de la joie au Saint-Esprit. Parce que quelquefois, on l'attriste par nos propres pensées. Je ne parle pas de nos paroles encore, qui attristent souvent le Saint-Esprit. Mais bien souvent, nous attristons le Saint-Esprit par nos pensées. Et nous avons besoin d'être purifiés dans nos pensées, dans nos paroles, et aussi alors dans nos actes. Et puis, comme le Saint-Esprit a une volonté, il voudrait aussi nous amener à accomplir certaines choses. Et si nous ne les accomplissons pas quand nous savons que nous devons les faire, nous péchons. Pour celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui, c'est péché. Donc, il n'y a pas seulement péché en pensée, en parole, en action, mais aussi il y a le péché par omission. Et puis, j'en ajouterai encore un autre. Le péché par manque de conviction. Celui qui n'agit pas par conviction, il pêche. Il faut que nous ayons une conviction. Pour nous-mêmes, je ne l'impose pas aux autres, mais il faut que nous soyons des gens convaincus. Parce que le Seigneur nous a convaincus. Seigneur, nous voulons te demander que cette heure soit toute remplie de ta grâce, de ta lumière, et que nous prenions un véritable bain d'amour en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes donc dans ce dimanche matin 15 mars 87, toujours occupés de ce message trinitaire et de ce Père glorieux, de ce Père de gloire, que nous pouvons appeler réellement notre Père. Car Jésus ressuscité, c'est le premier message qu'il a donné à qui ? À une femme, pas un apôtre. À une femme, justement. À Marie-Madeleine, il lui a dit, « Va, dis à mes frères. » Oh, que c'est beau. « Va, dis à mes frères. » Lui-même nous a appelés ses frères. « Je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Le Dieu de Jésus-Christ est votre Dieu, alors ce n'est pas rien. « Je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. » Quelle commission. Allez dire cela aux apôtres. Ils ont dit, mais tu es folle. Des gens qui ont été 3 ans à l'école de Jésus, et puis qui disent à Marie-Madeleine, tu es folle. Il pense qu'elle déraisonne. Il dit, mais je l'ai vu, il est vivant, il est ressuscité. Elle l'avait pris d'abord pour le jardinier. Mais ce n'était pas le jardinier, sinon le jardinier de son cœur. Hein? Et j'espère bien que le Seigneur est le jardinier de notre cœur. Et c'est lui qui se charge d'enlever les mauvaises herbes et d'y planter les fruits pour sa gloire. Alors, vous vous êtes penché sur ce chapitre 5, et que le français courant intitule « Vivre dans la lumière », ou que Segond a noté « La marche du croyant en enfant bien-aimé de Dieu ». Et c'est vrai que dans le premier chapitre, nous avons vu que Dieu avait un fils, bien aimé, hein? Mais nous apprenons maintenant que nous aussi, nous sommes des enfants bien aimés. Aimés de Dieu comme Jésus était aimé par son Père. Je l'ai dit souvent, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Que le Père ait pu aimer son Fils qui a toujours fait les choses qui lui plaisaient, nous avons la facilité à le comprendre. Mais me dire que Dieu m'aime comme il a aimé son Fils, ce c'est pas croyable presque. Bien des âmes, je dois croire. Parce que c'est Jésus lui-même qui le dit. Il dit dans sa prière à son Père, « Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est vrai, mais ça ne doit plus rester dans les couvertures de la Bible, ces paroles. Ça doit s'incarner dans notre cœur. Ça doit, comme je le dis souvent, se fixer dans votre sensibilité. Et dans les mauvais moments où vous vous croyez abandonné, « Père, tu m'aimes. Tous peuvent m'abandonner, mais toi, tu m'aimes. Toi, tu me connais. Et tu m'aimes justement en me connaissant. Les autres peuvent se faire des illusions sur moi. Je peux avoir toute espèce d'apparence. Mais le Seigneur, lui, me connaît. Je suis tout nu devant lui. Et il me connaît dans ma nudité la plus complète. Et il m'aime tel que je suis. C'est merveilleux. C'est de cela que vous devez devenir conscient pour avoir une joie qui demeure au travers de toutes les circonstances. Le Père n'est pas contre vous. Il vous a élu dès avant la fondation du monde. Il vous éprouve parce que vous êtes des enfants. Vous connaissez la discipline du Père. Quelquefois, on a besoin d'être corrigé. Eh bien, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce que nous sommes ses fils. Si nous étions des bâtards, il nous laisserait. Mais le fait d'être ses fils, il veut faire notre éducation. Et un Père qui est vraiment Père, il sait discipliner ses enfants. Ce n'est pas toujours un plaisir, hein. Mais si on aime assez nos enfants, nous savons aussi les reprendre. Alors, puisque vous êtes, mais, vous voyez, puisque vous êtes l'enfant de Dieu, alors, efforcez-vous d'agir comme lui. Ça, c'est le français courant. Devenez donc, puisque nous avons vu dans le dernier chapitre que nous sommes appelés à nous pardonner réciproquement, comment est-ce que nous devons nous pardonner? Comme Dieu nous a pardonné. Alors, la mesure de votre pardon, vous la voyez. Comment est-ce que Dieu vous a pardonné? À moitié, aux trois quarts, il vous a tout pardonné. Et il ne revient pas toujours à remettre les choses du passé sous votre nez. Il y a des chrétiens qui sont tout le temps culpabilisés. Eh bien, nous voudrions vraiment que vous soyez, par la grâce de Dieu, déculpabilisés de votre passé. Le Seigneur n'est pas mort pour rien, il est mort pour vos péchés. Et vos péchés avaient un nom. Mais ça, c'est maintenant le passé. Et c'est tellement vrai qu'il nous délivre même de certains souvenirs du passé, que l'apôtre Pierre, qui avait pourtant renié avec imprécation son maître, qui avait dit « Je ne connais pas cet homme », qui avait sacré, lui qui avait vu Jésus à ses pieds ce soir même, et qui lui avait dit « Quand tous te renieraient, moi je ne t'abandonnerai pas », eh bien lui, il l'a abandonné. Il était sûr de lui. C'était la faillite. Quand on est sûr de soi, c'est la faillite. Mais vous pouvez être sûr de son amour. Soyez sûr de lui. Et comme Pierre a reconnu dans les larmes sa faute, le Seigneur l'a restauré. Et il l'a restauré d'une telle manière en lui disant, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Il l'avait renié trois fois. Il lui a demandé trois fois, « M'aimes-tu ? Est-ce que tu m'aimes plus que ne le font ceux-ci ? » Non, tu sais toute chose, Seigneur, tu sais que je t'aime. Eh bien, plus tard, c'est ce Pierre-là qui a été employé pour annoncer l'Évangile à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et il y a eu combien de conversions? 3 000. C'est beau ce que Dieu peut faire, mais avec un homme qui a renié. Et quand il a prêché, il a oublié tout son passé. Il a dit aux autres, vous avez renié le Saint et le Juste. S'il y a une phrase qu'il n'aurait pas dû dire, semble-t-il, c'est celle-là. Hein? Parce que tout le monde savait qu'il l'avait renié. Enfin, c'est les disciples. Et il a osé dire cela. Vous avez renié le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne se souvient plus de nos péchés, ni de nos iniquités. Et il veut que vous viviez dans la joie. Et celui qui voudrait toujours vous enlever votre joie et vous rappeler vos fautes, c'est l'accusateur, Satan. Mais vous pouvez dire à Satan, mais mon Père le sait. Tu ne trouves pas. Et dites-lui non. Il en sait plus que toi. Parce que Satan ne sait pas tout. Il n'est pas omniscient. Mais Dieu sait tout. Toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons à rendre compte. Eh bien, il nous a pardonné. Alors, la mesure de notre pardon, c'est un pardon comme celui de notre Père. Nous devons pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonné. Ça va loin. Pierre avait dit, jusqu'à quand, combien de fois est-ce que je pardonnerai à mes frères ? Sera jusqu'à 7 fois ? Il croyait que c'était le chiffre de la plénitude. Il dit, non pas 7 fois, mais 70 fois. 7 fois. C'est-à-dire avoir toujours l'esprit de pardon, comme notre Père. Et nous continuons. Alors, devenez donc des imitateurs. Imitateurs de qui ? De Dieu. Il ne faut pas prendre un homme comme modèle. Il faut prendre Dieu lui-même. Devenez imitateurs de Dieu, parce que comme on l'a dit ce matin, les hommes tôt ou tard peuvent nous décevoir. Devenez imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Puisque vous êtes les enfants de Dieu, bien, agissez comme Dieu agit. Vous avez maintenant sa nature, et alors, marchez, parce qu'on est sur la terre, on est dans ce monde, eh bien, marchez dans l'amour, ou que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour. C'est tout le message de cet épître. Il faut que nous soyons inspirés par l'amour. Est-ce que c'est l'amour qui m'inspire ? Je sais ce que l'amour ne fait pas, et je sais aussi ce qu'il fait. Et l'amour est une vraie puissance. Marchez dans l'amour, c'est-à-dire inspirez-vous toujours de l'amour. En ayant quel exemple pour nous ? À l'exemple du Christ. Parce que Dieu, on ne le connaît que dans la personne de Christ. On connaît la puissance de Dieu quand on voit la création, on connaît la beauté de Dieu dans une certaine mesure, dans les choses qu'il a faites, il y a des choses si belles que l'on peut admirer dans la nature et qui nous parlent de Dieu. Mais le cœur de Dieu, il nous a été révélé dans la personne de Jésus. Et nous voyons comment Jésus a aimé. Et notre exemple, c'est qui ? C'est le Christ. C'est ni mon curé, ni mon pasteur. Mon exemple, c'est le Christ. Ton exemple, quelle que soit ton église, l'église de ta naissance, que tu sois catholique, que tu sois orthodoxe, que tu sois protestant, que tu sois né dans le judaïsme, ou dans le mahométisme, une fois que tu as rencontré Christ, ton exemple, c'est le Christ. Alors, quelle est notre unité ? Notre unité, elle est en Christ. Notre exemple, c'est le Christ. Et comment nous a-t-il aimé ? Il nous a aimé au point qu'il s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, vous voyez que ce qu'est l'amour, c'est pas l'amour comme le monde l'entend. Le vrai amour, c'est un amour crucifié. Le Seigneur est allé jusqu'à, dans son amour, jusqu'à donner sa vie. Aimer, c'est se donner sans espoir de retour. C'est aller jusqu'au bout. On ne se reprend pas. Le Seigneur, quand il est venu, il savait qu'il devait aller à la croix. Et il ne s'est pas détourné de ce chemin. On lui a dit, mais Seigneur, tu vas aller à Jérusalem, mais tu sais bien ce qui t'attend. Hérode voulait te tuer, et puis tu veux aller à Jérusalem. Mais le Seigneur sait qu'il est venu pour cela. Et il ira jusqu'à la mort. Il dresse sa face comme un caillou. Et son amour pour nous, c'est d'aller jusqu'au bout. Et il s'offre à Dieu. Il n'y avait qu'une vie qui pouvait entrer dans le ciel. C'était quelle vie ? La sienne. Mais lui ne voulait pas qu'il n'y ait qu'une vie comme la sienne. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Pour qu'il y ait d'autres vies comme la sienne, il a été le vrai grain de blé. Et il l'avait dit, hein, si le grain de blé tombant en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il fallait sa mort. Et il l'avait dit à ses disciples, il faut que le Christ souffre. C'est dans la loi, c'est dans les prophètes. Alors, si je veux être le sauveur du monde, je dois passer par la mort. Pour que d'autres vies germent de cette mort. C'est quelque chose d'incroyable. Et c'est pourtant vrai. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Toute vie sort de la mort. Toute vie sort de la mort. Alors, ne soyez pas inquiets. Si maintenant vous comprenez que votre amour, oui, vous amène à la crucifixion, le Seigneur ne nous a pas dit autre chose. Amour est synonyme de sacrifice. Amour est synonyme de service. Amour est synonyme de don de soi. L'amour du crucifié, eh bien, oui, c'est le modèle que nous avons à suivre. Et c'est une offrande de bonne odeur. Est-ce que nous sommes la bonne odeur de Christ? C'est ce que Paul dit. Vous êtes la bonne odeur de Christ pour Dieu. Mais évidemment, pour le monde, cette vie-là, c'est une odeur de mort. Hein, pour ceux qui ont la mort, pour ceux qui ne connaissent pas la vie. Mais pour ceux qui ont la vie, quelle bonne odeur! Et nous aimons vivre dans le parfum de ceux qui sont cette bonne odeur de Christ. Et nous les aimons. Alors, verset 3, que la débauche ni aucune impureté ni cupidité, qu'est-ce que c'est la cupidité? L'amour de l'argent, n'est-ce pas? Ne soit même nommé parmi vous. Or, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? De quoi est-ce qu'on parle? Hein? C'est drôle. Hein? De quoi parle-t-on? On n'entend que parler de gain d'argent, de ci, de cela. Et puis, qu'est-ce que vous entendez ou qu'est-ce que vous voyez à la télévision ou à la radio? Là, c'est toujours des calembours, c'est toujours des choses à double sens, des choses impures. Et il est dit que ça ne doit pas même être nommé parmi vous. Mais nous les écoutons. Hein? Nous écoutons toutes ces choses. Puis on s'habitue aux sens. S'habitue, on ne voit plus rien, puis on parle comme le monde, on vit comme le monde. Mais c'est justement là qu'il y a une séparation. Si, je le dis souvent aussi, je me trempe dans un tonneau suie, je ne sors pas blanc comme la neige. C'est pas possible, il n'y a pas de miracle. Si je me roule dans la suie, ben non. Et puis, si ma nature n'est pas changée, là aussi, j'ai pris souvent cet exemple, hein, on va dans des réunions, on est impressionné par l'évangile. Hein, c'est un vrai lavage. On dit, oui, c'est vrai ce qu'ils disent, parce qu'on n'est pas très heureux de notre vie de péché. Hein. Alors voilà, on entend la parole, et la parole opère un certain lavage. Mais il faut que la parole fasse plus qu'un lavage. Hein. Il faut que la parole nous pénètre et qu'elle nous donne une nouvelle nature. Parce que sans ça, si c'est qu'un lavage, comme le dit l'apôtre Pierre, c'est un lavage de truie. Vous savez ce que c'est qu'une truie, hein? La femelle du verra, donc un cochon. Bon. Cochon femelle. Eh bien, la truie, on la lave, puis qu'est-ce qui lui arrive après? Oh, elle est propre, on peut la mettre dans son salon, là. J'ai vu en Égypte, il y avait des chèvres même sur les toits, là où on faisait la cuisine. Bien oui, mais on a lavé la truie, elle est propre, on l'a parfumée, tout ce que vous voulez. Mais laissez-la courir après. Elle trouve le bourbier, pouah, elle s'y vautre. Elle ne peut pas faire autrement, elle est truie. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui a perdu son salut. La truie est restée truie. Le chien est resté chien. Alors il retourne à son vomissement. Comprenez-vous? Ce n'est pas des gens qui perdent leur salut, mais ils n'ont jamais été régénérés, comprenez-le bien. Mais si vous avez une nouvelle nature, eh bien vous ne vous nourrissez plus des choses d'autrefois. C'est du passé, ça. Vous avez même un dégoût pour ces choses-là. Vous vous en séparez. Mais c'est vrai que j'ai pu aimer ces choses, Maintenant, je ne me reconnais plus. Quelqu'un me disait tout à l'heure qu'il y a une telle transformation aussi dans une âme qu'elle aime, qu'elle dit, mais c'est comme un homme nouveau. C'est vrai, c'est normal. Et vous savez, c'est cela grandir. Et les gens qui vous entourent voient ce changement. Ce n'est pas un de témoignage de « je suis sauvé depuis X années », etc. Mais c'est le monde qui dit, ils sont changés ces gens-là. Et c'est le monde qui vous entoure, c'est ceux qui vous connaissent le mieux qui disent, c'est plus les mêmes. Et pourtant, ils vous connaissent bien. Et ils voient le changement. Alors ça, c'est la puissance de Dieu. Et vous voyez l'œuvre de Dieu dans une vie. C'est merveilleux, mes amis. Et il y a encore des choses encourageantes. Et alors, ni la débauche, ni aucune impureté, la cupidité ne soit même nommée parmi vous. Alors n'écoutez pas ces choses, hein. Tournez le bouton. Ainsi qu'il convient à des saints. Parce que les saints, ils aiment ce qui est saint. Soyez saints, dit l'Éternel, car moi je suis saint. Si vous vivez dans la compagnie du saint, des saints, eh bien, vous vivrez dans la sainteté. Mais si vous allez ailleurs, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de miracle. Qu'on n'entende ni paroles grossières. Bien oui, on pouvait avoir des paroles grossières, vous sacriez avant. Et ce qui m'a souvent frappé au Québec, c'est que les gens du Québec, ils sacraient avec des mots d'église. Calice, hostie, sacristie, qui coulait. Hein? Voilà ce qui sortait. C'est quand même drôle, ça. Ils sacrent avec des mots religieux. Et c'est des blasphèmes. Alors, vous avez pu avoir ce langage-là. Mais maintenant, c'est fini. C'est fini. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Hein. Vous savez, on aime bien ce qui est équivoque, hein, ce qui est un petit peu salé, ce qui vous amène des pensées grivoises. Ce sont des choses qui sont contraires à la bienséance. Nous devons avoir une certaine dignité. Qu'on n'entende plus que des actions de grâce. Vous allez dire, oh ben alors, ça va être monotone. Il n'y a plus de sel à ma vie si on entend que des actions de grâce. Mais qu'est-ce que vous entendez dans le monde? Des murmures. Et chez les chrétiens, des murmures. Les chrétiens sont des plaignants, hein, souvent. Ils se plaignent de ceci, ils se plaignent de leur sort. Ils ne sont pas satisfaits. La louange n'est pas continuellement dans leur bouche. Alors c'est un témoin. Vous pouvez évangéliser. Mais votre vie ne fait pas envie, vous vous plaignez tout le temps. Vous allez dans un hôpital, vous commencez à critiquer la nourriture. Vous critiquez ceci, vous critiquez cela. Au lieu de dire, bien voilà, je suis là, je prends ce qui est là. Je suis le prisonnier du Seigneur. Je suis dans cette situation, mais j'y suis dans le Seigneur. Et c'est ça qui change tout. Si je suis avec le Seigneur, si je marche avec le Seigneur, il y a des choses que je ne ferai pas. Il y a des choses que je ne ferai pas. C'est tellement clair. Jésus, il marchait avec son Père. C'est pour ça que je dis que son cœur était dans le ciel. Il a dit, le Fils qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Il était sur la terre, mais en réalité, il était, dans ses pensées, dans le sein du Père. Il vivait dans une communion intime avec son Père, de sorte qu'il pouvait dire à ses disciples, vous, un jour, vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père qui m'a envoyé est avec moi. Pourquoi? Parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. Quand nous faisons les choses qui plaisent à Dieu, nous avons l'approbation du Père. Et nous n'avons plus cette horrible sensation de solitude. Et alors, on a des actions de grâce. Et c'est pour les actions de grâce. Quand vous voyez quelqu'un qui est heureux, et qui vous le dit, qu'est-ce que ça vous donne? La jalousie? Vous voudriez être heureux. Mon frère est heureux. Alléluia. Hein? On ose le dire. Mon frère est heureux. Ma sœur a été bénie. Je m'en réjouis. Moi, je n'ai pas reçu la même chose. Mais ça ne fait rien. Au moins, elle est membre de mon corps. Alors, nous sommes membres du corps de Christ. Alors, Le bien que reçoit une personne, c'est un bien qui m'est aussi donné. Et nous avons de la joie les uns pour les autres. Alors, que nous puissions entrer davantage dans les actions de grâce, lisez les psaumes. La louange sera continuellement sur mes lèvres, comme ça fait du bien. D'entendre quelqu'un qui dit qu'il est heureux, alors qu'il y a tant de gens malheureux. Car, sachez-le bien, aucun débauché, parce qu'il ne faut pas nous y tromper là-dessus, hein, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on l'a vu l'année dernière, le jour de la Pentecôte, on a donné la communion aux gays et aux lesbiennes au grand congrès qui a eu lieu à Montréal le jour de la Pentecôte. Et un évêque a présidé cette Eucharistie. Ce qui m'a fait refuser d'aller prêcher dans une de ces églises. C'est pas possible. Moi, je peux prêcher à des lesbiennes, je peux prêcher aussi à des homosexuels, je peux avoir de la compassion pour ces gens-là. Mais leur donner la communion, dire qu'ils sont membres du corps de Christ, alors qu'ils vivent contre nature, c'est une abomination. Comprenez-vous? Alors, nous ne pouvons pas avoir une participation quelconque avec des communautés qui admettent cela. Ils ne sont pas même catholiques, hein, même s'ils sont évêques, parce que le pape lui-même ne dit pas ça. C'est ça qui est drôle. Maintenant, chacun, dans toutes les églises, chacun pense qu'il peut faire ce qu'il veut. On est assez loin de Rome. Oui, mais vous n'êtes pas loin du trône céleste. Vous êtes loin de Rome. Mais c'est un homme qu'on doit craindre. C'est pas parce que le pape dit cela. Et puis si le pape dit des vérités, je dis amen. Comprenez-vous? La question, c'est de savoir ce qui est dit là. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est biblique? Si c'est biblique, nous disons amen. Voilà notre cœur. Et Dieu emploie qui il veut. Et quand il n'y a plus de prophète, vous savez qui l'emploie? Un âne, oui, une ânesse. Il fait parler une ânesse. Alors avant de faire parler des ânesses, bon. Que personne ne vous séduise, verset 6, par de vains discours, et c'est ce qu'on entend aujourd'hui, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision, ce sont de vains discours. Et on vous dit des choses dans certaines émissions comme si elles étaient certaines, hein, qu'il y a des milliards d'années, etc., que le monde était comme ceci, et puis qu'en l'an 2500, il y aura ceci, il y aura cela. On vous dit cela comme si c'était des certitudes, alors que c'est des suppositions, et que rien ne se passera comme ça, parce que l'Écriture va demeurer. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et vous savez, dans la Bible, vous avez les dernières nouvelles. Pas besoin de les écouter à la radio. Vous avez toujours les dernières nouvelles. C'est vrai? Et vous savez que nous sommes dans les temps de la fin. Eh bien, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La colère de Dieu, elle vient. On sent qu'elle s'amasse sur ce monde et qu'elle va éclater. Alors, notre attitude, n'ayez aucune part avec eux. Vous devez connaître la séparation. Et ça vous donnera de la solitude. Vous perdrez certains amis qui vous trouveront étroits, tout ce que vous voudrez, puisque ça peut faire. Pourvu que vous soyez avec le Seigneur. N'ayez aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. C'est vrai, et on vivait dans les ténèbres. On faisait ça en cachette. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Parce que notre Père est un Père de lumière. Un Père glorieux, mais aussi un Père de lumière. Alors, nous ne voulons pas nous glorifier de ce qui fait notre honte. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? On se glorifie de ce qui devrait faire notre honte. Les gens étalent leur péché. Ils disent combien ils ont eu de partenaires dans leur vie. Rendez-vous compte. Quelle dégoûtation. Ils ne savent plus ce que c'est que l'amour. Marcher dans la lumière comme des enfants de lumière. Voilà ce que vous êtes. Votre père est un père de lumière, alors vous êtes les enfants de lumière. Cela vous est donné. C'est pas à vous qui faites un effort, mais vous avez une nature nouvelle. Vous êtes devenu la brebis du Seigneur. Or, la brebis du Seigneur, c'est pas une truie, c'est pas un chien. Vous nourrissez pas une brebis comme on nourrit un chien ou comme on nourrit une truie. Vous êtes les brebis du Seigneur. Et ces brebis, il les connaît. Et nul ne peut les ravir de sa main. Donc vous ne pouvez pas perdre votre salut quand c'est le salut de Dieu. Hein. Mais si c'est le salut qu'on vous a donné ou qu'un prédicateur vous a donné, ben ça peut se perdre. Car le fruit de la lumière consiste... Il y a un fruit quand on est dans la lumière. En toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça produit quelque chose de vivre dans la lumière. Et alors, il y a des fruits, la bonté. Vivez dans la lumière et vous aurez plus de bonté. Vivez dans la lumière et vous aurez plus de justice. Vous vous direz, non, non, dans la lumière, je ne peux pas faire une chose comme ça. Il y a des choses qu'on ne fait pas quand c'est dans la lumière, on aurait trop honte. Alors, on est empêché. Et puis, de vérité. On a renié, comme on l'a vu hier, le mensonge. Hein. Et nous parlons la vérité chacun à notre prochain. Et alors, au verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est bon. On a eu une fois avec Josapha et Françoise un camp là-dessus, sur ce verset, ce seul verset. Hein. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et il y a une traduction qui dit « Décidez-vous pour ce qui est agréable au Seigneur. » Parce que, vous savez, vous voyez ici que j'ai plusieurs bibles, parce que j'emploie plusieurs traductions, parce que je cherche toujours le sens le plus profond et qui peut le plus nous parler. Et vous savez que les rabbins juifs disent toujours que chaque verset biblique a 70 significations différentes. Pas contradictoires. Comprenez-vous? Mais on peut interpréter tel passage de 70 manières. Donc, quelle richesse! Alors, je n'ai pas encore lu 70 fois la Bible, même si j'arrive à mes 70 ans. C'est cela. Alors, il faut que je me rattrape. Et nous avons peu de temps pour cela. Alors, lisez l'Écriture, parce que vous verrez quel lavage ça va vous apporter. Un lavage de pensée, un lavage pas de cerveau, hein. Parce que ça nous donne des convictions. Alors, autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière. Et on a vu le fruit de la lumière. Alors, examinez ou décidez-vous pour ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile de savoir ce qui est agréable au Seigneur? Posez-vous la question. Est-ce que ce que je vais faire, c'est agréable au Seigneur? Est-ce que je peux faire cela au nom du Seigneur Jésus et en rendant grâce au Père par lui? Ça, c'est un verset capital, Colossiens 3, 17, hein, pour nous instruire. Est-ce que dans ce que je me propose de faire, est-ce que je peux le faire au nom du Seigneur Jésus? Et est-ce que je peux vraiment rendre grâce à Dieu pour ce que je suis en train de faire? Est-ce que je peux mettre Dieu dans l'affaire? D'abord, c'est Dieu qui nous met dans les affaires. Alors, nous allons prendre ce verset, examiner ce qui est agréable au Seigneur. C'est un motto pour nous. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous savez que le monde est conduit par Satan. Les œuvres de ce monde, c'est des œuvres de ténèbres. Alors, n'ayez aucune part. Ce sont des œuvres inutiles, des œuvres mortes. Mais plutôt condamnez-les. La meilleure façon de les condamner, c'est de nous en séparer. car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais pour vous montrer en quel temps nous sommes, ce qui était autrefois honteux et qu'on faisait en secret, comment est-ce qu'on le fait aujourd'hui ? En plein jour. C'est ça la gravité. Ce qui me fait penser qu'on est vraiment dans les derniers jours, c'est qu'autrefois, on avait honte de certaines choses. Mais maintenant, on s'en glorifie. C'est celui qui peut raconter la pire des choses, qui est le héros, sinon le zéro. C'est quelque chose d'épouvantable. On fait des héros. Dans les journaux, vous voyez, ceux qui ont la vedette des journaux, c'est des exemples pour vos enfants. Et alors vous voyez les posters qui entrent dans les familles, dans les foyers de chrétiens. Il y a des idoles. On dit qu'on a quitté les idoles. Puis on remet les idoles où on laisse nos enfants ou nos petits-enfants avec ces idoles. C'est une souffrance pour nos cœurs quand nous voyons cela. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Voyez-vous, il faut que notre vie soit dans la lumière. Devenir des gens transparents. Avoir vraiment cette transparence qu'on puisse voir au travers de nous et de nos pensées. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Nous nous sommes endormis. On est tellement habitué à cela, à tout ce qui se passe, que finalement on s'endort sur cela. Mais qu'est-ce qui peut nous réveiller ? C'est la parole. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Entre quelqu'un qui dort et quelqu'un qui est mort, on ne voit pas la différence de loin. Mais comment est-ce qu'on peut savoir s'il y en a un qui est vivant ? C'est quand on parle. Hein. On l'appelle. Et celui qui a la vie, quand même s'il s'est endormi, il se réveille. Qu'est-ce que c'est le réveil ? Qu'est-ce que c'est qu'un réveil ? Eh bien, c'est d'être saisi par la parole. Mais c'est vrai, je me suis oublié, je me suis endormi. Alors maintenant, je prends conscience de choses. Oui, j'avais perdu conscience, et puis je me relève d'entre les morts. J'étais avant mort dans mes fautes et dans mes péchés. Alors, maintenant que je suis sauvé, c'est pas pour m'endormir de nouveau au milieu des morts. Mais il y en a souvent qui se rendorment au milieu des morts. Mais qu'est-ce qui peut les réveiller ? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Et alors, quand la parole parle, le Christ nous éclaire, n'est-ce pas ? Le Christ t'éclairera. Tu peux être sûr que le Christ va t'éclairer si tu écoutes sa parole. Mais il faut écouter sa parole. Il ne faut pas être des auditeurs oubliés, mais il faut nous mettre à l'œil. Alors, verset 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et le français courant dit, prenez donc bien garde à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Vous avez reçu une sagesse. Vous n'êtes plus des insensés. Le Seigneur vous donne une sagesse. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Voilà comment on combat le péché par omission. Il y a une bonne occasion qui s'offre à nous. Eh bien, nous voulons la saisir. Il n'est pas dit provoquer les occasions. Or, il y a une foule de chrétiens qui essayent de provoquer des occasions. Puis là, vous vous cassez la tête. Mais saisissez l'occasion. Demandez à Dieu, donne-moi d'avoir l'occasion d'un témoignage, peut-être, quand il voudra. Mais on est dans la dépendance de Dieu. On est remis à zéro. Et je le dis aussi souvent, c'est dans la mesure où nous sommes des zéros que le Seigneur peut nous employer. Alors, si vous êtes un zéro, lui est l'unité. Il vient se placer devant, ça fait combien ? 10. Mais si vous êtes deux zéros, quand l'unité vient devant, ça fait 100. Si vous êtes trois zéros, ça fait 1000. Si vous êtes six zéros, ça fait 1 million. La puissance du Seigneur s'accomplit dans la verset 2. Mais il faut que j'ai une peu d'estime pour moi-même. Ce que je suis un zéro. Mais pas seulement un zéro, je suis zéro, zéro, zéro. Je ne crois pas que je peux faire quelque chose. Mais je sais que lui peut faire avec moi si je me laisse saisir par lui. Alors, lui accomplira les œuvres qu'il a préparées d'avant. Toutes nos œuvres, disait déjà le prophète Isaïe, c'est toi qui les accomplis pour nous. Et c'est une des règles de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle s'accomplit par la puissance de Dieu, et non pas par nos propres forces. Quand c'est vraiment la volonté de Dieu, il nous donne sa force. La volonté de Dieu, elle est toujours conforme à la nature de Dieu, et puis elle s'accomplit par la puissance de Dieu. Si c'est vous-même qui devez faire les choses, vous serez les crevés. Mais si c'est lui qui l'accomplit, vous serez renouvelés. Parce qu'on ne peut pas être au contact de cette puissance sans en être renouvelé. Alors, rachetez le temps. On en a perdu du temps. Hein, quand on pense à toutes les années, peut-être, qu'on a vécues pour le monde, pour les folies de ce monde, alors on se dit aussi, quand même, toutes ces années perdues. Il y a un verset merveilleux dans le livre de Joël, au chapitre 2, qui dit, « Je vous redonnerai les années perdues. » Vous trouvez pas que c'est merveilleux, ça? C'est toujours encourageant, c'est tonique. « Je vous redonnerai les années perdues. » Ces années qui ont été gâchées par les sauterelles, par les liettes, par la locuste, etc., je vous les redonnerai. Au lieu de gémir sur votre passé, dites-vous, « Seigneur, si j'ai encore un jour, je voudrais le vivre pour toi. » Car un jour, avec Jésus, ça vaut mieux que mille ailleurs. Donc vous voyez ce que vous pouvez rattraper. Un jour avec le Seigneur, ça vaut mieux que mille ailleurs. Alors rachetez le temps, c'est cela. Car les jours sont mauvais. Nous ne savons pas combien de temps nous avons encore pour témoigner pour le Seigneur par nos vies. Eh bien, les jours deviennent de plus en plus mauvais. C'était déjà mauvais au temps de Paul. Mais si c'était la dernière heure aussi au temps de Jean, nous sommes donc dans les dernières secondes de la dernière heure. Hein. Parce que la dernière heure a commencé quand on a rejeté Christ, à la crucifixion de Christ. Alors depuis, eh bien, nous sommes dans les dernières minutes ou dans les dernières secondes de la dernière heure. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas insensés. Mais efforcez-vous de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. On nous dit, mais c'est tellement difficile de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. C'est pas vrai. C'est le diable qui vous dit cela. Car si vous le voulez bien, vous allez comprendre la volonté du Seigneur. Est-ce que cela c'est du Père ou est-ce que c'est du monde? Ce qui n'est pas du Père est du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Qu'est-ce qui est dans le monde? Convoitise de la chair. Convoitise des yeux, orgueil de la vie. Ben, je me sépare de cela. Je sais que ça fait du monde. Mais ce qui est du Père, mais qu'est-ce qui est du Père? Eh bien, c'est Jésus. Jésus, il est du Père. Il est entièrement du Père. Ses pensées sont celles du Père. Ses paroles sont celles du Père. Ses actes sont ceux du Père. C'est le Père qui agit en lui. Et alors, eh bien, il nous dit qu'il veut agir en nous. Comme le Père est en lui, il veut que le Père aussi soit en nous. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Il veut que nous ayons sa vie en nous. Et c'est ce qu'il dit dans cette merveilleuse prière que je vous invite à relire et à méditer, où vous voyez comment Jésus priait, comment il épanchait son cœur auprès de son Père. Il dit au verset 26 du chapitre 17 de Jean, « Connaître ton nom. » Et quel est le nom de Dieu? C'est Père. Hein? Père, je leur ai fait connaître ton nom, t'es Père. « Et je le leur ferai connaître. » On croyait le connaître, mais on veut encore le connaître mieux. Le Seigneur continue son œuvre. Il veut nous faire grandir dans l'intimité de son Père. « Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. C'est ça. Afin que l'amour dont tu m'as aimé, c'est le même amour que nous pouvons connaître. Mais il voudrait non pas que nous ayons une pensée au sujet de cet amour, mais que ça s'incarne en nous. Et que l'amour dont tu m'as aimé soit en nous. Alors, verset 18, ne vous inhibrez pas de vin, ou vous pourriez dire de bière, hein, puisque beaucoup ont succombé souvent à la bière, ici au Québec. Ne vous inhibrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais vous voyez, il n'est pas dit que nous ne devons pas boire du vin, mais il faut savoir le boire. Hein. Vous pouvez user de tout, n'est-ce pas? Ça sera peut-être quelque chose qui vous fera digérer. La vigne, c'est le Seigneur qui l'a faite. Hein. Le fruit de la vigne, il l'a bu aussi. Mais il ne s'est jamais enivré. Un jour, un prêtre m'a dit, « Oh ben tu sais, hein, le Seigneur, c'est un bon vivant. » Il aimait le bon vin, on le voit bien à Cana, hein, ce qu'il a fait. On a même dit qu'il aimait bien les femmes. C'est incroyable. Ce qu'on peut entendre de la bouche d'hommes qui se disent hommes de Dieu, mais ça peut être aussi un pasteur, qui dit toutes sortes de choses. Faites-moi, que Dieu m'en garde. L'apôtre Paul recommande justement à Timothée d'user d'un peu de vin. Il ne dit pas bois le tonneau. Il dit use d'un peu de vin pour ton estomac à cause de tes fréquentes indispositions. Alors nous ne devons pas devenir des fanatiques sur ceci ou sur cela. C'est l'équilibre. En Jésus, vous avez l'équilibre. Je me souviens toujours quand j'ai compris cela. J'étais dans un asile de fous. Je vais vous demander ce qui m'était arrivé. J'allais visiter un de mes anciens camarades qui avait un petit peu décroché. Puis je vois toujours, on se promenait et il me dit, Gaston, qu'est-ce que c'est l'équilibre? Qu'est-ce que je voulais lui répondre? Tout bord d'un lac, là, on était dans la clôture. J'ai crié à Dieu, mes orteils étaient en prière. Hein, tout mon être criait, qu'est-ce que je dois lui dire? Alors, je lui ai dit, Christ. Il m'a regardé non plus comme un fou. L'équilibre, c'est Christ. Oui, c'est. En lui, vous avez l'équilibre en toute chose. Il était vivable. Tandis que nous, les chrétiens, souvent, nous sommes invivables. Et puis, nous mettons des règles, nous mettons toutes sortes de choses. Et puis, nous faisons croire que si on ne mange pas de ceci, si on ne mange pas de cela, eh bien. Oui, peut-être. Mais regardons le Seigneur, prenez-le comme exemple, entrez dans son intimité. Alors, au lieu d'être enivré de vin, qu'est-ce que nous devrions faire? Enivré du Saint-Esprit. Hein. Alors, c'est cela. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Cet Esprit Saint, il voudrait vous remplir. Il voudrait vous remplir. Soyez remplis de l'Esprit. Puisqu'il est là, puisqu'il vous a été donné, bien dit, Seigneur, maintenant, prends toute la place. Je te laisse le volant de ma vie. C'est toi qui vas conduire. On fait chanter à nos enfants, mon auto, Jésus la guide. Oui, mais ta vie, est-ce que c'est Jésus qui la guide? Est-ce que Jésus qui te conduit? Bien, mettons cela en pratique. Entretenez-vous alors, quand on est rempli de l'Esprit, qu'est-ce qui arrive? De tout à coup, bien, on aime les cantiques. Entretenez-vous. C'est une conséquence, si on est rempli de l'Esprit, eh bien, l'Esprit nous entretient et nous permet de connaître des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il y a tant de choses qu'on entend dans ce monde qui sont attristantes. Eh bien, nous voudrions Et c'est cela que l'on peut avoir dans l'Église, vraiment les louanges du Seigneur. Verset 20, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour quelques petites choses, mais pour toutes choses. Il n'y a rien qui soit contre vous, même telle épreuve. Seigneur, je te bénis parce que dans cette épreuve, tu m'as fait progresser. Je sais que tu n'es pas contre moi. Je sais que tu m'aimes, que je participe à ta discipline. Alors rendis continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. En quel nom? Au nom du Seigneur Jésus. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Nous apprenons à nous soumettre les uns aux autres. Ce n'est pas quelque chose de pénible, de vivre aussi avec nos frères. Nous voulons nous soumettre les uns aux autres. C'est cet esprit de soumission. Ce n'est pas dire oui, amen à tout. C'est toujours dans la crainte du Christ. Vous avez toujours le Christ devant les yeux. Le Christ était soumis à la volonté de son Père. Et il y a eu des choses qui ont été difficiles pour lui. À Gethsémani, il nous en a donné l'exemple. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Et il prie trois fois, parce qu'aller à la mort de la croix est fait péché pour nous, aller au-devant de la séparation de son Père avec lequel il a toujours été en communion, mais s'il a nos péchés, nos abominables péchés, il va être séparé de Dieu. Et c'est crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais nous savons pourquoi, parce qu'il avait nos péchés qui nous empêchait d'entrer au ciel. Mais voulant que nous puissions entrer au ciel, il prend nos péchés qui nous excluent du ciel, et lui, eh bien, meurt, il connaît le salaire du péché, qui est la mort, mais en mourant, il a enlevé à la mort son aiguillon. L'aiguillon de la mort, c'était quoi? Le péché. Et en mourant, il a enlevé l'aiguillon à la mort. Alors la mort, elle a perdu son aiguillon pour nous. Eh bien, la mort a perdu son aiguillon. Ô mort, où est ton aiguillon? Au sépulcre, ta victoire. Parce que nous savons qu'en Jésus aussi, nous sommes déjà ressuscités. Et qu'un jour, par l'Esprit qui est en nous, nos corps mortels aussi connaîtront la résurrection, si nous devons passer par la mort. Mais c'est toujours dans la crainte du Christ. Nous avons toujours le Christ devant les yeux. Et alors maintenant, nous avons la maison chrétienne. Après notre vie dans le monde, notre vie dans la lumière, maintenant il est question de la maison chrétienne, notre vie dans la famille chrétienne. Et il faut comprendre ce qu'était une maison du temps de l'apôtre. Qu'est-ce qu'il y avait dans une maison, pour former une maison? Il y avait le mari, il y avait la femme, une maison normale, il y avait des enfants, il y avait des serviteurs, n'est-ce pas? Alors, le mari était maître, il avait des serviteurs, il y avait une femme, et puis il y avait des enfants. Alors, vous avez là des enseignements qui sont pour le temps de Paul, mais qui sont aussi pour notre temps. Et c'est là que je vous posais la question, est-ce que c'est encore valable pour nos jours, ce que dit l'apôtre Paul? Moi, j'ai vu une Bible qui appartenait à un pasteur, il a biffé ça, il a fait des croix là-dessus, puis il a mis dans la marque faux. N'est-ce pas? Il est mort. Mais il n'admettait pas ces versets. Paul qui dit, femme, soyez soumise à vos maris. Ça vous blesse? C'est plus pour votre temps? Femme, que chacune soit soumise à son mari. Mais comment être soumise à son mari? Mais comme au Seigneur. Il faut un ordre, n'est-ce pas? Et comme au Seigneur. Le Seigneur, il était soumis à qui? À son Père, n'est-ce pas? Et alors, nous, bien, nous avons son exemple. Et une femme qui est vraiment femme, eh bien, ça ne lui est pas pénible d'être soumise à son mari. C'est comme au Seigneur. Elle a toujours le Seigneur devant les yeux. Car le mari est le chef de la femme. Oh, quelle abomination! Non, alors vous avez un foyer sans chef? Non, il y a une hiérarchie. C'est pas parce que la femme est inférieure. Pas du tout. Mais il y a un ordre en tout. Et si vous ne voulez plus cet ordre qui est un ordre de Dieu, eh bien, ça sera l'anarchie dans la maison. Le mari est le chef de la femme. Mais justement, comment est-ce qu'il est chef? C'est ça qui est merveilleux. Ne sortez pas une parole de son contexte. Comme le Christ est le chef de qui? De l'Église. Alors ça remet tout dans l'équilibre. Qui est son corps? L'Église est son corps. Et dont il est le sauveur. En quelque sorte, le mari, eh bien, doit être comme le sauveur aussi de sa femme. Il doit vivre à côté de sa femme comme un sauveur. Alors, c'est pas un oppresseur, le mari, qui est vraiment chef, dans le sens spirituel du terme, et une femme qui est vraiment femme, elle est heureuse quand même de penser qu'elle peut compter sur son mari, et que le mari prendra des décisions vis-à-vis des enfants aussi. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toute chose. Mais un mari qui est vraiment authentiquement chrétien, il ne va pas demander à sa femme des choses que le Seigneur ne lui demanderait pas, comprenez-vous? Mais ce qui vous montre que le mariage, comme le voit l'apôtre Paul, ne peut être qu'un mariage chrétien. En dehors du mariage chrétien, ça ne se réalise pas. N'essayez pas de voir ce qui se passe ou ce qui se dit dans le monde. Ce sont des gens du monde et ils raisonnent comme le monde. Et qui est le prince du monde? C'est Satan. Alors on a des idées du monde. Mais ce qui est terrible, c'est que ces idées du monde s'infiltrent dans le cœur des croyants. Mais comme tout le monde le fait, eh bien, on admet ces choses. Et on ne réagit plus. Voyez-vous, le vrai mariage chrétien, il doit être l'image de la relation de Dieu avec nous. De Dieu, du Père et du Fils. C'est là la véritable image. Tout ce qu'on a vu comme doctrine maintenant va passer dans la pratique et nous devons devenir des exemples. De même que le Christ et que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent être à leur mari en toutes choses. Mais immédiatement, attention, hein, s'il est recommandé à la femme d'être soumise, Marie, attention, hein, Marie est si souvent égoïste, que chacun aime sa femme. Sa femme! Comme le Christ a aimé l'Église. Alors voyez la mesure de votre amour. La mesure de l'amour du mari. Voilà pour nous les hommes. Et aimer, j'ai dit que c'était se donner, être crucifié. Il s'est livré lui-même pour elle. Mais pourquoi? Afin de la sanctifier, de sanctifier l'Église, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, ce que devrait être un mari chrétien. Eh bien, il devrait pouvoir apporter à sa femme, par sa vie, quelque chose qui la sanctifie. Et j'aime beaucoup cette expression que le lavage d'eau par la parole, c'est pas simplement le baptême, hein. Mais quand vous lisez la parole, c'est comme une eau qui vous lave. Ça vous lave de certaines pensées. Suivant vos lectures, vous êtes souliers. Hein? Mais quand vous lisez la parole, c'est comme de l'eau qui vous lave. C'est un vrai bain. Le bain de la parole de Dieu. C'est cela. Pourquoi est-ce que je veux lire la Bible? C'est pas simplement pour mémoriser des versets, mais c'est parce que je sais que quand je lis la parole, eh bien, je suis purifié. C'est une purification. Le sang de Jésus a expié mes péchés, mais sa parole me purifie. C'est vraiment une eau qui purifie, et j'en ai besoin. Parce que le Seigneur veut rendre son Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il la veut irréprochable. Alors, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps, comme Christ aime l'Église qui est son corps. Mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église. Mais ce sont des devoirs d'amour. Quelle joie! Et parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi, alors là, l'apôtre Paul cite un verset de la Genèse, « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, elles et deux deviendront une seule chair. » C'est le fameux verset qu'on emploie toujours pour le mariage. Hein? Mais lui, l'apôtre Paul dit, mais il y a encore une autre interprétation. Parce qu'on a dit qu'il y avait 70 interprétations. Alors, Paul ne voit pas uniquement cela comme étant le mariage du premier couple, tout en citant ce texte. Mais il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce verset qu'on cite toujours pour le mariage, hein, eh bien, moi je le vois, dit Paul, pour autre chose encore. C'est la relation de Christ et de l'Église. Le premier Adam avec Ève, oui, c'est aussi ça. Mais le second Adam, le dernier Adam, c'est qui? C'est le Christ et sa relation avec l'Église. Il y a une unité qui est vraiment merveilleuse. Mais là, de nouveau, on adore. Mais tout est sanctifié. On est un avec le Seigneur. C'est pour ça que le texte que nous avons donné avec ma femme sur notre message annuel, c'est « Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Mais celui qui est uni à une prostituée, il est une seule chair avec elle. Mais si on est uni au Seigneur, on est un seul esprit avec lui. Alors, verset 33, « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Alors, c'est très drôle. Là, dans la dernière fin de semaine, qui était au mois de décembre, je me suis permis de lire dans un livre que m'avait donné le cardinal Sunens de Bruxelles, que j'avais vu au mois de novembre. Nous avons passé 90 minutes ensemble. Il a 84 ans et nous avons parlé du Seigneur et nous avons pu prier ensemble. Et il m'a dit qu'il allait bientôt mourir, et puis voilà comment lui voyait la mort, etc. Alors, j'ai lu pour montrer quand même que, oui, on pouvait être cardinal, mais il m'a dit « depuis ma conversion ». Depuis ma conversion. Donc, on peut se convertir même quand on est cardinal. Hein. Mais ça n'a pas plu à certains que j'ai lu cela. Mais l'autre jour, justement, la semaine passée, j'ai reçu un petit journal. Et là, il y a un article d'un juif, je connais, qui a été converti, il habite Jérusalem. Et puis, voilà ce qu'il dit. Et c'est tellement des choses qui répondent à mon cœur. On me dit, il est à Jérusalem, ou il est au bord du lac de Tibériade, puis il a les mêmes pensées. Et c'est ça qui nous réjouit. On ne s'est pas consulté, on ne s'est pas vu. Et puis voilà que quand il parle, et c'est un résumé de ce qu'il a dit, eh bien, il dit que nous sommes fiancés au Seigneur. Je n'ai jamais dit autre chose. Hein. On est fiancés à Christ. Alors, qu'un autre le dise, ça me réjouit. Hein. Parce que je me dis, c'est pas si seul que ça. Il y en a d'autres. Alors, ne t'y veulent pas. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à être mariés à notre Église. Elle dit ça devant un auditoire de catholiques et de protestants. C'est l'Église qui est appelée à être mariée au Christ. Vous êtes d'accord? Non. Dieu veut que nous entrions dans ce dévouement, cette simplicité de l'amour, et comme l'apôtre Paul le dit, que nous soyons comme une vierge pure, fiancée au Seigneur. Vous avez ça dans 2 Corinthiens, chapitre 1. Je vous ai fiancée au Christ. On a dit notre oui au Seigneur, comme Marie. Aujourd'hui, dans toutes les dénominations, on trouve l'épouse de Christ. Prenez bien ça. L'épouse de Christ. On peut la trouver dans toutes les dénominations. L'épouse de Jésus. Elle intercède aussi pour l'Église. elle est sacrificateur devant Dieu en faveur de toute l'Église. L'Église avec un grand « et ». Elle dit, je pense à une prière de Thérèse de Lisieux évoquant cette parole du Cantique des Cantiques, c'était le livre que nous avons étudié au camp Mahanaïm. Entraîne-moi à ta suite, nous courons. Elle dit, et ça c'est Thérèse de Lisieux, hein, la petite Thérèse, si nous vivons dans cet amour pour le Seigneur et lui disons, entraîne-moi après toi, le parfum de notre vie se répandra partout et où que nous soyons, dans l'Église et dans le monde, nous amènerons d'autres personnes à aimer le Seigneur comme nous l'aimons et à courir vers lui avec nous. Bien, on peut dire amen à cela. Bon, c'est biblique. C'est cela, ajoute le prédicateur, le vrai appel de l'épouse de Jésus dans l'Église d'aujourd'hui. Jésus ne lui demande pas de quitter l'Église, son Église naturelle, mais de rester dans l'Église et d'y être un modèle, un parfum, parce que dans l'Église même, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est vrai, hein. Dans ce qu'on appelle l'Église, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et même dans des églises dites évangéliques, et leur vie ne manifeste pas vraiment qu'ils connaissent Jésus comme on doit le connaître. Ils ne connaissent pas Jésus, mais qui, par le témoignage de l'épouse, quand on est vraiment épouse de Christ dans son église, eh bien, ils seront entraînés vers l'époux dans ce même amour. Il est temps pour l'époux de faire descendre sur son visage le voile du mariage qui évoque notre séparation pour Dieu et notre consécration. Ce qui compte, c'est que vraiment nous ayons une consécration pour le Seigneur. Mon seul amour, c'est le Seigneur. Et je suis complètement pour lui. Je me détache de tout, même de mon Église. Même si j'y reste, parce que mon attachement va au Seigneur. Je me détache complètement du monde parce que je suis l'épouse du Christ. C'est ça qui compte. Je me détache complètement du monde parce que je suis l'épouse du Christ. Le roi porte ses désirs sur sa beauté. Il cite le psaume 41. Quand l'épouse se met à part dans cette adoration pour le Seigneur, c'est le Seigneur qui lui donne toute sa beauté. L'épouse est déjà belle pour le Seigneur, parce que Jésus l'aime et qu'il est mort pour elle. C'est dans la grâce de Jésus que nous sommes beaux pour le Seigneur. Vous croyez? C'est dans la grâce de Jésus que nous sommes beaux pour le Seigneur. Qu'est-ce qui dit cela? Un juif. Un juif messianique. Un juif qui s'est converti à Jésus. C'est quand même heureux, ça, d'entendre cela. Il y a peut-être des choses sur lesquelles ben, on peut penser un petit peu différemment, mais l'essentiel, il est là. Mais cette beauté de l'épouse est aussi le fruit d'un travail de Dieu dans son cœur. Soulignons dans le psaume 45 quelques secrets de la beauté de l'épouse. Et puis là, il cite le psaume 45. Et alors, je finis en vous disant ce qu'il dit au sujet de trois femmes. Il parle de trois femmes. Maintenant, je veux vous parler de trois femmes. La première représente une tendance qui se manifeste aujourd'hui dans l'Église institution. Ne vous méprenez pas. Je ne veux juger personne. Et encore moins mettre en cause telle ou telle église. Mais c'est une réalité actuelle sur laquelle il faut que nos yeux soient ouverts et que nous prenions garde, même dans notre recherche de l'unité. Cette femme, c'est la prostituée. Dans ce qu'on appelle l'église, il peut y avoir la prostituée. La prostituée, elle a connu l'époux. Maintenant, elle n'est plus unie à lui. Il y a aujourd'hui, dans l'Église, une tendance à être marié au monde et non au Seigneur. C'est vrai ou c'est faux? Dans beaucoup d'églises, il faut faire comme le monde. Oh, j'ai même entendu un pasteur qui disait qu'il fallait se convertir au monde. Maintenant, c'est incroyable. Mais ils sont annoncés, ces faux docteurs. Cette femme était autrefois l'épouse du Seigneur, mais d'autres intérêts ont captivé son attention. Elle a d'autres amours, d'autres amants. Le monde et ses besoins sont plus importants pour elle que le Christ lui-même. Et c'est vrai, vous avez cette tendance dans bien des milieux. Elle a oublié que si elle s'occupait du Seigneur et de ses besoins, tous ceux du monde seraient par là même comblés. Quand on est occupé du Seigneur, il nous donne des possibilités pour aider les autres. Cette femme est devenue très humaniste, très libérale. Elle est entrée dans la politique, dans les compromis. Elle cherche la paix pour le monde, mais pas avec la croix de Jésus-Christ. Elle veut apporter la paix sans se rendre compte que ce dont le monde a besoin, c'est la paix avec Dieu. Qu'il souffre de sa révolte contre Dieu et que la seule manière d'apporter la paix, c'est par la croix de Jésus-Christ. Et c'est un juif qui dit ça. Elle cherche ainsi la paix entre toutes les religions, l'islam, le bouddhisme. Peu importe notre religion, dit-on, de toute façon nous sommes frères et sœurs. On a vu comment on peut être frères et sœurs, seulement en ayant un même père. On oublie que ce n'est que par la croix de Jésus-Christ que nous sommes vraiment frères et sœurs. Et cela est vrai pour tous, même pour nos frères et sœurs juifs. C'est seulement par la croix de Jésus et en Jésus qu'on devient frère. Et les juifs le comprendront, j'en suis sûr aussi. Le Seigneur agira aussi parmi eux. Mais cette femme, donc la prostituée, elle s'est également engagée dans une théologie moderniste. Très souvent, elle ne croit même pas que Christ est vraiment né de la Vierge Marie et qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Et vous savez que même dans l'Église catholique, il y a bien des prêtres qui ne croient pas que Jésus est né de la Vierge Marie, conçu du Saint-Esprit, on a d'autres explications, même dans l'Église dite romaine. Alors voyez dans quel état on est. Elle croit manifester un grand esprit de tolérance, mais en fait, elle s'est heurtée à la pierre d'achoppement de la croix. Jésus a dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Et il dit ceci, ça m'a un peu amusé et attristé. « Je connais en Amérique une église épiscopalienne, donc les anglicans, où on célèbre l'Eucharistie à la terre et au ciel et à la nature. » C'est plus au Christ, hein. C'est à l'univers qu'on célèbre l'Eucharistie. Il y a un crucifix dans cette église, ça va vous réjouir mes sœurs, mais c'est une femme qui est sur le crucifix, et non le Christ. C'est ça le mouvement féministe. Hein? Hein? On en arrive à cela, et vous vous rendez compte. Il y a des prêtres qui distribuent maintenant des condoms dans les églises, comme on distribue l'hostie. C'est une abomination. Mais c'est le moment de vous réveiller. Est-ce que nous voulons dormir? Eh bien voilà, une femme est sur le crucifix. C'est elle qui nous sauve. Il y a quelques années, dans la cathédrale catholique de New York, on a permis au Dalai Lama, qui se prétend Dieu incarné, de se tenir avec ses prêtres à l'autel et de parler à l'église. Mais on ne l'a pas seulement à New York, on l'a fait à Marie Reine du Monde, à Montréal. Frères et sœurs, gardons les yeux ouverts. Puis alors, après la prostituée, il dit, il y a la concubine. Et puis dans l'église, la vraie église de Jésus-Christ, et là j'aimerais que chacun examine sa propre vie et non celle de l'autre, il y a la maîtresse ou la concubine. La concubine est beaucoup plus préoccupée des choses de Dieu que de Dieu lui-même. Elle aime les dons de Dieu, mais son cœur est loin de lui. Elle a perdu son premier amour pour Jésus-Christ, comme l'église qui était à Éphèse. On retombe sur nos pieds. Hein. Elle a quitté cette vie d'intimité avec lui. Elle ne désire plus réellement écouter la voix de l'époux dans son cœur. Elle s'ennuie avec lui. C'est pour ça que les églises se vident. Elle cherche de ci, de là, la dernière nouveauté, la dernière manifestation de l'action de Dieu. Elle cherche des expériences avec Christ. C'est votre vie? Mais Dieu ne les accorde que pour nous amener à Jésus. C'est vrai. Non, on ne vit pas pour faire des expériences. L'expérience nous amène à Jésus. Il veut que nous examinions nos cœurs et que nous nous demandions, est-ce que je désire Jésus plus que mon ministère? Là, je peux me le demander, moi. Plus que tout autre don qu'il m'accorde. Est-ce le Seigneur que je veux ou suis-je seulement excité par les choses de Dieu? Vous les connaissez, les excités par les choses de Dieu? Misère. Ce qu'on peut voir aujourd'hui dans tous ces festivals dits chrétiens, les excités pour les choses de Dieu. Est-ce que vous êtes un excité pour les choses de Dieu? Nous trouvons dans la Bible une image de cette femme, celle des saintes vierges, dont les lampes s'éteignent au moment où l'époux vient. Hein, c'est vrai. C'est un juif qui dit ça. Et alors il y a l'épouse. Et puis il y a l'époux. Donc trois femmes. La prostituée, la concubine, et l'épouse. Et puis il y a l'épouse. Pour l'épouse, Jésus est l'alpha et l'oméga. C'est le commencement et la fin. Elle vit seulement pour le glorifier. Ce qu'elle fait, elle ne le fait pas pour elle-même. C'est Jésus et non pas elle qui est le but de toute chose. Et à cause de son rapport avec Jésus, c'est elle qui porte vraiment le fruit de Dieu. C'est l'épouse qui est prête à se perdre pour Jésus, comme cette femme qui est venue à Jésus et a versé sur ses pieds ce parfum précieux. Elle était prête à tout donner pour Jésus, même si les autres ne comprenaient pas. Le grand désir de l'époux, c'est que la parole de Dieu puisse vraiment devenir chair en l'épouse. C'est le mystère de l'épouse. Comme Christ est la parole de Dieu incarnée, la parole de Dieu s'incarne aussi dans l'épouse. Dans toute sa faiblesse, Christ est sa puissance. Elle est entrée dans la crucifixion avec le Seigneur et aussi dans sa résurrection. Et alors il termine avec ça. Une seule est ma parfaite. C'est ce que nous trouvons dans le psaume 45. C'est l'épouse qui sera persécutée à la fin des temps. La vraie Église, elle sera persécutée à la fin des temps. Mais qu'est-ce que c'est la vraie Église? C'est tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus, dans quelque milieu qu'ils se trouvent. L'épouse sera persécutée à la fin des temps. On voit dans l'Apocalypse qu'il y a un grand combat à la fin des temps. Satan et les anges luttent contre Michel et ses anges et contre l'épouse de Christ. C'est la grande dame, le grand drame de la fin des temps. Et c'est à cause de cette persécution que l'épouse de Jésus-Christ deviendra vraiment une. Catholique, protestant, juif, tous ceux qui aiment le Seigneur plus que toute autre chose seront liés ensemble par le Seigneur dans cette unité pour laquelle Jésus a prié dans l'évangile de Jean. Et il finit par ce cantique, les cantiques, verset 6. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Ben dans la chrétienté, c'est ça. Hein. Il y a toute espèce de milieu qui se disent épouse de Christ. Chaque église veut être, soi-disant, l'épouse de Christ, mais elle doit se demander, est-ce que je suis prostituée? Est-ce que je suis concubine? Ou est-ce que je suis vraiment épouse? Et il termine avec ça. Une seule est ma colombe. C'est beau, hein? Une seule est ma colombe, ma parfaite. Il n'y en a qu'une, il n'y a qu'une église. Elle est composée des vrais croyants, où qu'ils se trouvent. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui a donné le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Voilà l'image de l'épouse de Jésus, devenue une dans la vérité selon sa promesse. Il y a peut-être certaines choses sur lesquelles je pense un petit peu autrement, mais l'essentiel est quand même ici. Et voyez-vous, c'est cela qui m'afflige. Je me dis, pour qu'il y ait l'unité entre les vrais croyants, parce qu'il y a des vrais croyants partout, est-ce qu'il faudra la persécution pour qu'on soit mis ensemble? Ou bien est-ce que notre amour pour Jésus ne devrait pas nous porter les uns vers les autres? Pour apporter, au fond, la faiblesse du corps de Christ, c'est que les dons sont répartis un peu partout, mais voilà, ils ne sont pas employés pour tous. Bien, ce que nous désirons, c'est être un don pour tous, employé indistinctement, quelles que soient les communautés. Que ta grâce, ô notre Dieu, fasse de nous vraiment l'épouse du Christ et que nous en ayons les caractères. Car nous savons que c'est tellement facile de se prostituer avec le monde tout en prétendant être baptisé ou rebaptisé. Seigneur Jésus, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole. Et la vie.